Chapitre 39. Mercredi 16 décembre, l'après-midi. Avant d'arriver sur Nordtäljevägen, Yona s'arrête au bord de la route. Un camion passe, la benne remplie de pierres concassées poussiéreuses. Il sort un papier de la poche de sa veste et lit. « J'ai encore 5 blots dans la région de Stockholm. 3 à Västerås, 2 à Eskilstuna et 1 à Umeå. » Il replie le papier et adresse à Eric un sourire encourageant. « Charlotte, » dit Eric à mi-voix. « Il n'y avait pas de Charlotte, » dit Yona qui essuie une tache sur le rétroviseur. « Charlotte Cederskjeld, » répond Eric. « Elle était gentille avec Eva. Je crois qu'elle lui louait une chambre à l'époque. » « Où pourrait-on trouver Charlotte, à votre avis ?»« Elle habitait Stocksund il y a 10 ans, mais... » Yona a déjà composé le numéro de la police. « Salut, Anya !»« Oui, merci, toi aussi. J'ai besoin du numéro de téléphone et de l'adresse d'une certaine Charlotte Cederskjeld. Elle habite Stocksund, ou y habitait. »« Oui, merci. »« D'accord, attends, » dit-il en extirpant un stylo et en écrivant sur un morceau de papier. « Merci beaucoup !» Il met son clignotant à gauche et reprend la route. « Elle y habite toujours ?» demande Eric. « Non, mais nous avons tout de même de la chance. Elle habite près de Rimbo. » Eric sent l'inquiétude lui nouer l'estomac. Il ne sait pas pourquoi, la nouvelle de son déménagement de Stocksund l'alarme. Peut-être devrait-elle au contraire le rassurer. « Le manoir de Husby, » dit Yona qui introduit un disque dans le lecteur CD. Il marmonne que c'est la musique de sa mère et augmente doucement le volume.
« Saya Vergus !»
crie-t-il. Il secoue tristement la tête et accompagne la chanson.
« Dam, dam, da-da-di-dum !»
La musique mélancolique envahit l'habitacle. À la fin de la chanson, il reste silencieux un court instant. Puis, Yona dit d'une voix presque étonnée
« Je n'aime plus la musique finlandaise. »
Il s'éclaircit la voix à plusieurs reprises.
« Je trouve que c'est une belle chanson, » dit Eric.
Yona sourit et lui lance un rapide regard.
« Ma mère était présente quand elle fut nommée reine du tango à Seinäjoki. »
Quand il quitte la grande artère très chargée de Nordtäljevägen et bifurque sur la route 77 près de Setuna, une pluie drue et mêlée de neige s'abat sur la voiture. L'horizon s'assombrit à l'est, et les fermes qu'il dépasse sont progressivement gagnées par l'obscurité. Yona tambourine sur le tableau de bord. Des bouffées de chaleur électrique sortent en sifflant des bouches d'aération. Eric sent ses pieds commencer à transpirer sous l'effet de la chaleur.
« Voyons voir !» dit Yona qui longe maintenant des champs givrés.
Au loin, se dessine une grande maison blanche derrière une clôture haute. Il se gare devant le portail ouvert et monte à pied le bout de chemin vers la maison. Une jeune femme, vêtue d'une veste en cuir, ratisse l'allée de gravier. Elle a l'air d'avoir peur. Un golden retriever court à ses pieds.
« Charlotte !» crie la femme. « Charlotte !»
Une femme passe le coin de l'énorme maison en traînant un sac poubelle noir derrière elle. Elle porte une doudoune rose, sans manches, et un gros pull gris, un jean délavé et des bottes en caoutchouc.
« Charlotte, » pense Eric. « C'est bien Charlotte. »
La femme svelte et distante, en habits élégants et coiffure soignée à la Jeanne d'Arc, a disparu. La personne qui vient à leur rencontre est complètement différente. Ses cheveux sont longs et gris, réunis en une tresse épaisse. Le visage est rempli de rides d'expression et dépourvu de tout maquillage.
« Elle est plus belle que jamais, » pense Eric.
Lorsqu'elle les aperçoit, son visage rougit. Elle semble d'abord complètement stupéfaite, puis ses lèvres s'étirent en un grand sourire.
« Eric !» dit-elle d'une voix qui n'a pas changé,
grave, articulée et chaleureuse. Elle lâche le sac poubelle et attrape ses mains.
« C'est bien toi ? Que c'est merveilleux de te revoir !»
Elle salue Yona, puis reste un instant immobile à les observer. Une femme forte ouvre la porte d'entrée et les regarde. Elle porte un tatouage sur le cou et un large sweat-shirt noir à capuche.
« Tu as besoin d'aide ? » crie-t-elle.
« Des amis à moi !»
répond Charlotte avec un geste rassurant de la main.
Le sourire aux lèvres, Charlotte regarde la femme forte refermer la porte.
J'ai transformé le manoir en un refuge pour femmes. Ce n'est pas la place qui manque. Alors je reçois les femmes qui ont besoin de s'échapper un peu, comme on dit. Je les laisse vivre ici, nous préparons à manger ensemble, nous nous occupons de la maison, jusqu'à ce qu'elles aient de nouveau envie d'entreprendre des choses toutes seules. Tout ça est très simple au fond.
Ça a l'air bien, dit Eric.
Elle hoche la tête et fait un geste vers la porte, comme pour les inviter à entrer.
Charlotte, nous avons besoin de joindre Eva Blow, dit Eric. Tu te souviens d'elle ?
Bien sûr que je m'en souviens. Ça a été ma première invitée ici. J'avais des chambres dans l'aile et...
Elle s'interrompt.
C'est bizarre que tu me parles d'elle,
reprend-elle.
Eva m'a téléphoné il y a à peine une semaine.
Qu'est-ce qu'elle voulait ?
Elle était en colère, dit Charlotte.
Ah ! Soupire Eric. Pourquoi était-elle en colère ? Demande Yona.
Charlotte inspire profondément. Eric entend le vent souffler dans les branches nues. Il voit que quelqu'un a tenté de construire un bonhomme de neige avec le peu de neige tombé.
Elle était en colère contre Eric.
Il sent des fourmillements dans son corps en pensant au visage pointu d'Eva Blow, sa voix agressive, ses yeux tranchants et le bout de son nez coupé.
Tu avais juré de ne plus jamais hypnotiser, et puis tout d'un coup, il y a une semaine, tu as recommencé. C'était à la une de tous les journaux, ils en ont parlé à la télé. Naturellement, ça en a bouleversé plus d'un.
J'étais obligé, dit Eric. Mais c'était une exception.
Elle prend sa main dans la sienne.
Tu m'as aidé, chuchote-t-elle. La fois où j'ai vu. Tu te souviens ?
Je me souviens, dit Eric à voix basse.
Charlotte lui sourit.
Ça a suffi. Je suis entrée dans la maison hantée. J'ai levé les yeux et vu ceux qui m'avaient fait du mal.
Je sais.
Ça ne serait jamais arrivé sans toi, Eric.
Mais je...
Quelque chose en moi s'est reconstruit,
dit-elle en posant la main sur son cœur.
Où se trouve Eva maintenant ? Demande Yona.
Charlotte fronce légèrement les sourcils.
Quand elle a eu son bulletin de sortie, elle s'est installée dans un appartement dans le centre d'Okersberga et a rejoint les témoins de Jéhovah. Les premiers temps, nous sommes restés pas mal en contact. Je l'ai aidée financièrement, mais ensuite nous nous sommes perdus de vue. Elle croyait qu'on la pourchassait. Elle parlait sans cesse de se mettre à l'abri. Elle répétait que le mal était à ses trousses.
Charlotte regarde Eric.
« Tu as l'air triste, » dit-elle.
« Mon fils a disparu. Eva est notre seule piste. »
Le visage de Charlotte se trouble.
« J'espère que ça va s'arranger. »«
C'est quoi son nom ? Tu le sais ?» demande Eric.
Son vrai nom, tu veux dire? Elle ne le dit à personne. Elle ne le sait peut-être pas elle-même, mais elle s'est présentée sous le nom de Véronique quand elle m'a téléphoné.
Véronique?
Le voile de Véronique, ça vient de là.
Ils se disent rapidement au revoir, puis Eric et Yona s'empressent de retourner à la voiture. Yona reprend la direction du sud, vers Stockholm. Il est de nouveau au téléphone. Il demande qu'on lui cherche une certaine Véronique au centre d'Okersberga et l'adresse des témoins de Jéhovah, soit celle de leur bureau, soit celle de la salle du royaume. Eric entend Yona parler. Sa tête est lourde, il se sent épuisé. Il pense à la manière dont les souvenirs l'ont envahi et sent ses yeux se refermer doucement.
« Oui, Anya, je note, » dit Yona. « Vestra Banvegen. Attends, 5... Stationswegen. D'accord. Merci. »
Comme si le temps s'était mordu la queue, Eric se réveille au moment où ils descendent une longue pente le long d'un terrain de golf.
« Nous sommes bientôt arrivés, » dit Yona.
« Je me suis endormi, » dit Eric comme pour lui-même.
« Eva Blow a téléphoné à Charlotte le jour même où vous faisiez la une de tous les journaux du pays. »
« Et le lendemain, Benjamin a été enlevé, » dit Eric.
Parce que quelqu'un vous a vu,
ou parce que j'ai rompu ma promesse de ne plus jamais hypnotiser.
Dans ce cas, c'est ma faute, dit Yona.
Non, c'était...
Eric se tait, il ne sait pas vraiment quoi dire.
Je suis désolé,
dit Yona, le regard fixé sur la route. Il passe un magasin discount avec des vitres brisées. Yona regarde dans le rétroviseur. Une femme voilée est en train de balayer les débris de verre sur le sol.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Eva quand elle était ma patiente, dit Eric. Elle se mutilait, et elle est devenue complètement paranoïaque. Elle a rejeté toute la faute sur moi et sur l'hypnose. Je n'aurais jamais dû l'accepter dans le groupe, je n'aurais jamais dû hypnotiser qui que ce soit.
Mais vous avez aidé Charlotte, objecte Yona.
On dirait, répond Eric à mi-voix. Juste après le rond-point, ils passent une voie ferrée, tournent à gauche près du terrain de sport, franchissent une rivière et s'arrêtent près des grands immeubles d'habitation gris. Yona désigne la boîte à gants.
« Redonnez-moi le pistolet, voulez-vous ? »
Eric ouvre la boîte et lui tend l'arme pesante. Yona contrôle le canon, le chargeur, et vérifie que le cran de sûreté est mis avant de glisser le pistolet dans sa poche. Il traverse rapidement le parking et il accourt avec des balançoires, un bac à sable et une cage à poules. Eric désigne la porte, lève la tête et voit des guirlandes clignotantes et des paraboles sur presque tous les balcons. Une vieille dame appuyée sur un déambulateur se tient derrière la porte fermée de la cage d'escalier. Yona frappe et fait un signe amical. Elle les regarde et secoue la tête. Yona montre sa carte de police à travers la vitre, mais elle secoue de nouveau la tête. Eric fouille ses poches et trouve une enveloppe avec des reçus qu'il devait apporter au service comptable. Il s'approche de la vitre, tape et montre l'enveloppe. La femme se rend aussitôt à la porte et appuie sur le bouton de la serrure électrique.
« C'est la poste ?» demande-t-elle d'une voix grinçante.
« Lettre express, » répond Eric.
« Il y a tant de pleurs et de cris ici, » chuchote la femme contre le mur. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demande Yona.
Eric regarde la liste de noms et trouve Véronique Anderson au premier étage. L'escalier étroit est tagué avec de grandes signatures rouges. Une odeur infecte s'élève du vide ordure. Il s'arrête devant la porte avec le nom Anderson et sonne. Des traces boueuses de bottes d'enfant montent et descendent l'escalier.
« Sonnez encore une fois, » dit Eric.
Yona ouvre la fente pour le courrier et crie qu'il y a une lettre de la tour de guet pour elle. Eric voit soudain la tête de l'inspecteur repoussée comme par une vague de pression.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Je ne sais pas, mais je veux que vous restiez dehors, » dit Yona, le regard angoissé.
« Non, » répond Eric.
« J'entre seul. »
Un verre éclate par terre derrière l'une des portes de l'étage. Yona sort un étui avec deux objets fins en acier. L'un a le bout recourbé et l'autre ressemble à une clé très fine. Comme si Yona avait lu dans les pensées d'Eric, il marmonne que rien ne lui interdit de s'introduire dans un appartement sans mandat de perquisition.
« D'après la nouvelle réglementation, une cause raisonnable suffit, » ajoute-t-il.
Il vient d'introduire le premier instrument dans la serrure quand Eric tend une main et vérifie la porte. Elle n'est pas fermée. Une odeur pestilentielle s'échappe. Yona tire son arme et d'un geste brusque impose à Eric d'attendre dehors. Eric sent son cœur battre dans sa poitrine. Il entend son sang bourdonner dans ses oreilles. Le silence est de très mauvais augure. Benjamin n'est pas là. Les lumières de la cage d'escalier s'éteignent et l'obscurité l'enveloppe. Il ne fait pas complètement noir, mais ses yeux peinent à trouver des points de repère. Yona se dresse soudain devant lui.
« Je crois qu'il vaut mieux que vous m'accompagniez à l'intérieur, Eric. »
Ils entrent et Yona allume le plafonnier. La porte de la salle de bain est grande ouverte. L'odeur de putréfaction est insupportable. Eva Blow gît dans la baignoire rayée, sans eau. Le visage est enflé. Des mouches fourmillent autour de la bouche et bourdonnent dans l'air. La chemise bleue s'est relevée, le ventre est ballonné et verdâtre. Des entailles noires et profondes courent le long des bras. Le tissu de la chemise et ses cheveux blonds sont collés dans le sang coagulé. Sous la peau gris pâle, un réseau net de veines brunes se déploie sur tout le corps. Le sang immobile a pourri dans son système vasculaire. De petits œufs de mouche jaune se sont accumulés au coin des yeux, autour des narines et de la bouche. Du sang s'est écoulé du tuyau d'évacuation de la baignoire sur le petit tapis de bain. Les franges et la bordure se sont assombries. Un couteau de cuisine sanglant repose dans la baignoire près du corps.
« C'est elle ?» demande Yona.
Oui, c'est Eva.
Elle est morte depuis au moins une semaine. Le ventre a déjà bien enflé. Ce n'est donc pas elle qui a enlevé Benjamin.
Il faut que je réfléchisse, dit Eric. Je pensais...
Il regarde par la fenêtre et voit le petit immeuble en briques de l'autre côté de la voie ferrée. Eva pouvait voir la salle du royaume de sa fenêtre. Il se dit que ça devait la rassurer.